dans Matthieu chapitre 18. On va terminer ce soir le thème sur le pardon. Je n'ai pas la prétention qu'on aura tout dit sur le pardon, hein. Il y a des tonnes de livres sur le pardon. En tout cas dans le milieu chrétien. Alors on avait vu, je rappelle un peu les étapes, parce que les étapes que nous avons évoquées sont pas le fruit du hasard. Il y a quand même on a dit que le pardon c'est un processus, c'est un cheminement, ce sont des étapes qu'il faut accepter, de prendre les unes après les autres et de les traiter les unes après les autres. Et que si on oublie de traiter une étape, alors il y a comme une entorse, quoi. Il y a quelque chose qui manque comme dans un processus de guérison physique. Quand on soigne, il y a des protocoles, il y a un rythme à respecter. Donc on avait vu la notion du pardon et de la colère. C'est-à-dire qu'il y a un offensé, un offenseur, et l'offensé doit avoir l'occasion d'exprimer sa souffrance, son malaise. Nous avons la notion que le pardon libère, il nous libère déjà de nous-mêmes, processus déjà de rentrer dans une logique de pardon, c'est déjà s'affranchir nous-mêmes de tous les sentiments malsains qui pourraient en ressurgir et naître et se développer en nous. On avait vu également que le pardon justifie, il nous justifie nous-mêmes, et là c'était surtout destiné aux chrétiens. On avait vu que Jésus, lorsqu'il parle du pardon, c'est essentiellement pour ses disciples. Et lorsqu'on lit bien les paroles de Jésus, il dit bien, par exemple si on reprend la prière, « Notre Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Et Jésus revient après et dit, « Si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas. » Et on a bien vu que l'importance, c'est que Dieu, le pardon de Dieu, est conditionnel au pardon que nous, on va accorder aux autres. Si nous, on ne pardonne pas, alors notre Père Céleste ne pardonne pas. D'où l'importance pour nous, en tant que chrétiens, de voir, de réaliser l'importance de ne pas vivre avec une situation de non-pardon. Mais tout ça, ça a été déjà évoqué. Puis nous en parlait la dernière fois, de la notion du pardon et de la repentance. S'il n'y a pas repentance, s'il n'y a pas reconnaissance de celui qui a fait la faute, qui a blessé, s'il ne vient pas exprimer son repenti, alors, bien sûr, nous, on peut rentrer dans un processus de pardon, au sens où on rentre dans une dimension où on ne se laisse pas dominer, empoisonner par des mauvais sentiments. Donc, on rentre dans un processus de pardon, on dit « Ok, je pardonne parce que je ne veux pas me laisser polluer, mais le dossier n'est pas clos. » Si quelqu'un, si celui qui vous a fait mal, ne vient pas vous dire pardon, verbalement, explicitement, alors le dossier n'est pas clos. Et c'est là qu'on avait vu que Jésus avait même dit qu'il valait mieux s'entendre avec celui avec qui on a eu un conflit, afin que ce ne soit pas avec le Père Céleste où on devra régler jusqu'au dernier centime. Donc il faut réaliser que le pardon permet effectivement de régler les choses. Et s'il n'y a pas de pardon explicite, s'il n'y a pas la repentance, le terme plutôt, s'il n'y a pas la démarche de repentance, de reconnaissance de la faute, alors le dossier n'est pas réglé et il se réglera devant Dieu lui-même. Alors la question qui vient après, c'est oui, mais alors combien de fois, j'accepte que la personne vienne me voir et qu'elle me demande pardon, mais combien de fois je fais ça? Et on va voir ce soir la dimension du pardon. Et vous allez voir que derrière le mot dimension, c'est l'ampleur, c'est la valeur, c'est le poids, c'est la mentalité du pardon. Et je trouve un texte qui est formidable, c'est Matthieu 18. On va lire les versets 21 à 35. Et je trouve que ce texte-là répond très bien à la question de la dimension du pardon.
20 à 45.
Matthieu chapitre 18. À partir du verset 21 jusqu'à la fin du chapitre. Alors Pierre s'approcha et dit au Seigneur: Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il a péché contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Pourquoi est-ce qu'il parle de 7? Parce que 7, c'est le symbole de la plénitude, de la divinité. Jésus répondit, je ne te dis pas 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulait faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui emmena un qui devait 10 000 talents. Est-ce que vous savez ce que ça représente, 10 000 talents, si on devait aujourd'hui... Bon, beaucoup, c'est combien? Je sais plus trop. Bon, je vous fais tout de suite la corrélation. Si on devait faire un prorata, 4 milliards d'euros. Ok. Le gars là, il doit 4 milliards. Ok. On n'est pas en train de parler d'anciens francs ou francs CFA. 4 milliards d'euros. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée, en tant que cas partiellement. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit: « Seigneur, aie patience, ça, aie patience envers moi, et je paierai tout. » Déjà on rigole, hein, parce que quand on sait ce que ça représente, déjà on se dit: « Tu vas faire comment ?» Enfin bref, qu'importe. Écoutez ça. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Il lui dit: « C'est 4 milliards là, j'efface cette ardoise. » Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Un denier, c'est une journée de travail, le salaire. Si on fait une équivalence, 100 jours de travail, ça fait 4 mois. À peu près. J'ai compté ça à 7000 euros. Ok ? 7000 euros. Donc là, il rencontre, il sort. Lui, la dette de 4 milliards d'euros effacée, il sort dans la rue, il voit un mec qui lui doit 7000 euros. Il le saisit et l'étranglait en disant: « Paie ce que tu me dois !» Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait en disant: « Mais aie patience envers moi, je te paierai !» Ah oui, 7000 euros, c'est possible encore. Mais l'autre ne voulut pas. Et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors, le maître fit appeler ce serviteur et lui dit: « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. La dimension du pardon. Alors c'est amusant parce que dans notre histoire, la question que Pierre pose à Jésus, c'est: combien de fois devrais-je pardonner? Quelle est la dimension du pardon? Jusqu'où je dois pardonner? Est-ce que c'est au moins 7 fois? Combien de fois? C'est la première question. Et l'histoire se termine par d'autres mots: de tout son cœur. La question de base, c'est ça, c'est combien de fois? Et la réponse de Jésus, c'est de tout son cœur.
Il lui dit quand même deux fois. Il lui répond en disant:
je te dis pas 7 fois, je te dis 70 fois 7 fois. On va développer ça. On va voir ça tout de suite. Ce que je veux mettre en évidence, c'est que la notion du pardon, ne répond pas à une logique de justice, mais une logique de cœur, de compassion. Voyez comme toutes les fois que l'on est offusqué, blessé, ou justement dans notre cœur, ça commence à réveiller. Regardez comme le diable commence à vous mettre ces mots. C'est injuste. Ça ne devrait pas. Tout de suite, il va réveiller la notion de la justice. Ah ! Avec ce qu'on a fait. Et là, on commence à comparer, à dire, à évaluer, à compter le nombre de fois, et le nombre de fois que... Et le diable nous fait rentrer dans une logique de justice, de comparaison, de pour, de contre. Et on est là comme des avocats et des juges, des comptables. On évalue la grosse faute, la petite faute, oui mais moi, et l'autre. Et la réponse de Jésus, c'est la compassion, la miséricorde, la patience, le cœur. Dans la notion du pardon, la dimension du pardon n'est pas une dimension de justice, mais c'est une dimension de cœur. Christ n'est pas resté à la croix parce qu'il devait être un super avocat, il est resté à la croix parce qu'il nous aimait. L'œuvre du don de Dieu à la croix est une justice vis-à-vis de Dieu, mais c'est un acte d'amour à l'égard de nos personnes. Et quand effectivement Jésus dit à Pierre, je ne te dis pas cette fois, je te dis 70 fois cette fois, cette fois 749, c'est-à-dire si on reste sur un point de vue comptable, bah au moins tu dois au moins pardonner 490 fois à une personne. Je m'étais amusé à ce petit ratio, 490 fois on demande pardon à quelqu'un, sachant qu'on dort bien 8 heures dans une journée de 24. En fait, si on fait le prorata de ces 400, ça veut dire que toutes les 2 minutes, on devrait dire pardon. On devrait accorder le pardon. Et à une personne. Ok ? Parce que c'est bien la question de Pierre. À combien de fois devrais-je pardonner mon frère ? Donc c'est pas, bon, j'ai un quota de 490 pardons dans la journée, je distribue, après je pardonne plus. Non, c'est à chaque... Donc on comprend que si on est dans une logique de justice, de comptabilité, de... à 491, c'est fini, je décapite. Non. On n'est pas dans cette logique-là. Ce que Jésus veut dire, c'est que c'est une mentalité. En fait, le pardon doit être pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, une mentalité. Je ne vais même pas attendre qu'il y ait faute pour pardonner. Le pardon, c'est une mentalité. C'est un automatisme. Ce doit être une seconde nature. En 1 Corinthiens chapitre 13, il nous est dit que l'amour ne suspecte pas le mal. C'est-à-dire que quand il nous arrive quelque chose, au lieu de prendre les chevaux, de monter sur nos grands chevaux et de sentir, oui, on est blessé, on réagit, on commence à spéculer, à chercher vengeance, on doit plutôt tout de suite avoir une logique de, ok, je lui pardonne. Ça ne veut pas dire qu'on va nier la souffrance. Rappelez-vous, on ne doit pas nier la souffrance. On ne peut pas nier la blessure. On ne peut pas dire, oh, c'est rien, non, je ferme les yeux. Non, il faut être objectif sur le mal qui nous est fait. Mais la réaction que l'on doit avoir après l'expression de la souffrance, c'est rentrer dans cette logique de, non, je ne veux pas me laisser engager dans la rancœur, dans la discuterie, dans une recherche de vengeance ou de justice. Je veux rentrer dans un processus de pardon. C'est ma logique, c'est mon attitude, c'est ma réaction, c'est ma seconde nature, c'est la mentalité. Et ça, ce doit être la mentalité de l'enfant de Dieu. De tout son cœur, quand il est dit là, de tout son cœur, ça veut dire que c'est entièrement. Je pardonne de tout mon cœur, c'est je pardonne, mais j'en garde pas une petite partie quand même, quoi. C'est pas je pardonne, mais T'as pas intérêt à recommencer. C'est le pardon entier. Entier. Je pardonne, mais... J'en garde pas une petite dose de côté, j'en garde pas dans un petit tupperware où on sait jamais si un jour cette petite rancune ne pour... Non, non. Quand Jésus nous dit de pardonner de tout notre cœur, c'est pardonner entièrement, libéralement, totalement. Et c'est cette mentalité-là. Alors comprenons bien que si ce n'est pas une question de justice, que c'est une question de mentalité, en fait, c'est une question de volonté. Le pardon est un processus. Je décide de pardonner. Parce qu'honnêtement, même cette fois, la même personne qui vient nous humilier cette fois dans la même journée, mais enfin, personnellement, je ne sais pas si j'aurais la patience de lui dire cette fois... Cool. J'aurais déjà pris mes clics et mes claques et j'aurais tout fait pour qu'il n'y ait pas une cinquième fois, peut-être même pas une troisième fois. Ça veut dire qu'il faut effectivement réaliser que le pardon, c'est une mentalité, mais ça n'a rien d'inné. C'est une volonté. Je décide de développer cette mentalité du pardon. Et on va voir tout à l'heure un soutien essentiel aussi à ça. Avant d'aller plus loin, c'est intéressant cette notion de cœur. Parce que si le cœur dans la parole de Dieu évoque la volonté, ce n'est pas toujours le domaine des émotions. C'est quand la Bible nous parle du cœur, c'est surtout la volonté, l'intention. Mais c'est vrai qu'il faut replacer les choses dans leur contexte. On est en train de parler du pardon. Et donc, il ne faut pas oublier que dans cette situation, il y a des cœurs qui souffrent, des cœurs blessés, des cœurs meurtris. Et peut-être que la bonne manière, ou un des éléments qui nous permettent de savoir si on a réellement pardonné de tout notre cœur, entièrement, si véritablement, effectivement, cette histoire-là, c'est bon, j'en ai même pas gardé une petite assiette au frais, c'est quand on est capable de penser à l'offense, ou à celui qui nous a offensé, à la situation, sans souffrir. Si on pense encore à la personne qui nous a fait du mal, à une situation qui nous a fait du mal, à un contexte, peut-être même, t'entends juste l'évocation d'un lieu, et qu'au-dedans de nous, comme une plaie qui est encore vive, vous savez, hein, et les plaies cicatrisées, et ça, il y a la cicatrice, mais ça fait plus mal. On peut passer... Et puis il y a les plaies où, quand ça gerce un peu, là, on ouvre un peu la lèvre, aïe! Et là on sent que c'est pas cicatrisé. On croyait que c'était cicatrisé, mais il suffit de tirer un tout petit peu, clac! On a encore mal. C'est que là, on a encore besoin de l'action de Dieu pour qu'effectivement le pardon soit de tout notre cœur, tout entier. Si en pensant à une situation, il y a encore de la souffrance, il y a encore du ressenti douloureux, c'est qu'il y a besoin d'aller plus en profondeur dans le processus de pardon. Alors, dans cette dimension du pardon et celle de la convalescence, je voudrais juste vous donner une piste. Et là, on va rentrer dans ce qu'on appellerait la dimension spirituelle du pardon. La dimension spirituelle. On a évoqué la dimension, non pas de la justice, mais la dimension de cœur, de l'amour. On a évoqué la dimension de la volonté, parce que le pardon, c'est une volonté. Mais il y a une dimension qui est spirituelle. C'est Jésus qui va dire en Matthieu, chapitre 5, verset 44, une parole qui est complètement folle. Alors elle est facile à dire, mais quand on la reprojette, quand on la place dans un contexte de persécution, de méchanceté, de brimade, de torture dans certains cas, alors on peut la comprendre dans le sens du pardon. Jésus dit « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » On n'est pas en train de parler là juste de gens qui nous blessent en nous marchant sur le pied, ou qui nous ont pas dit bonjour ce matin, ou qui nous ont regardé de travers. On n'est pas en train de parler de ça, là. Jésus parle véritablement de situations de souffrance, de ceux qui nous maudissent, de ceux qui haïssent, de ceux qui persécutent. Et là, quand Jésus parle de ça, c'est pas seulement des images. Les chrétiens ont été persécutés, torturés, jetés au loup et au lion. Les enfants étaient tués, les familles séparées. Et il y a encore, dans de nombreux pays, des situations de violence aussi extrêmes. Et même en France, il y a des conjoints qui subissent de véritables persécutions de la part de leurs conjoints inconvertis. Des brimades, des oppressions. Et Jésus dit quoi ? Aimer, bénir, faire du bien et prier pour eux. Non mais ça va pas. C'est pas possible. Et on rentre dans la dimension spirituelle. Parce que humainement, c'est impossible. On ne peut pas. Alors je vous donne une piste de convalescence. Toutes ces situations, ces personnes qui sont aujourd'hui des sujets de souffrance intérieure, commencez à prier pour eux. Priez pour eux. Non pas, Seigneur, envoie le feu du ciel sur leur tête. Mais dans cette logique-là, Seigneur, bénis-les. Oh, c'est dur. C'est dur. Déjà, avant de le dire avec les mots, on le dit d'abord dans la tête. Hein. Je vous le dis. Mais on dit, Seigneur, bénis-le. Fais-lui du bien. Agis en sa faveur. Et là, il y a un combat qui va s'agiter. Parce que l'ennemi de votre âme va dire, mais non, qu'est-ce qu'il nous a fait ? Mais rappelez-vous que la dimension du pardon, c'est une dimension de volonté. Une dimension qui ne repose pas sur la justice, mais qui se base sur l'état de cœur, sur la compassion, sur la miséricorde. Franchement, accepter de régler une dette de 4 milliards à quelqu'un, moi je suis pas un radin, hein. Mais il y en a qui me doivent quelques milliers d'euros. Et ben j'ai plus de mal à savoir qu'il y en a qui me doivent 1 ou 2 000 euros que ceux à qui, bon, peut-être que j'ai prêté 20, 30, 50 euros à d'autres et qui m'ont pas remboursé. Et j'ai même oublié. Mais celui qui me doit 1000 euros, ça, là, je vous en parle, je vois encore son visage. Et ce n'est que 1000 euros. 1500, je crois même. Bref. Mais 4 milliards d'euros. On s'en rappelle, hein ? Enfin, déjà, si on les avait, on s'en rappellerait aussi. Ce n'est pas quelque chose d'humain, le pardon. Et quand le pardon est destructeur, nous avons besoin de l'action surnaturelle de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui fera les choses à notre place. Voyez-vous ce que Jésus a dit. Si vous ne pardonnez pas, moi je ne vais pas pardonner. Donc le commencement, c'est nous. La dimension, c'est une dimension spirituelle. Seigneur, je veux à partir de maintenant prier, bénir, aimer la personne qui me fait souffrir. Là, le texte qu'on est en train de lire, ouais. Matthieu 18.
Parce que là, lorsqu'on a lu, là, il l'envoie en enfer, là, à la fin, là, il lui dit,
C'est ça. Alors ça, c'était, on avait développé ça sur le pardon qui justifie. T'étais là ce soir-là ?
Ouais.
Le pardon qui justifie.
Là, il ne bénit pas, hein. Là, il lui dit,
Ah non.
C'est trop tard, hein.
Non. Alors là, en fait, c'est pas le même texte en fait. Hein.
Ah oui.
Là, c'est pas le même texte. Là, c'est le texte qu'on a lu nous, c'est Matthieu 18. Le texte c'est Matthieu 5, verset 44. Voilà, où Jésus nous demande de prier pour nos ennemis, etc. Et donc, quand on a une situation où effectivement, on a besoin de passer ce cap, parce qu'on sait qu'il y a encore ces situations qui nous sont douloureuses, où on sent que la plaie est vive, il faut que l'on commence à prier pour dire, Seigneur, bénis telle personne. Et vous priez pour la bénir. Et vous allez voir que vous allez rentrer dans un processus de cicatrisation. Ça ne veut pas dire que vous allez être oubliez, mais vous n'allez plus en souffrir. La prière nous rapproche de Dieu. On est d'accord ? Et si la prière nous rapproche de Dieu, elle nous rapproche de son cœur, elle nous rapproche de la présence de Dieu et de ses bienfaits. Et lorsque nous goûtons à ses bienfaits, cela nous facilite également notre manière de pouvoir pardonner au prochain. On a un exemple, c'est en Luc chapitre 7, verset 47. En fait, c'est une rencontre entre Jésus qui est invité chez un homme religieux. Oh, cet homme religieux l'invite bien. Il dit, oh, toi tu es un prophète, Dieu, viens manger à la maison. Jésus accepte cette invitation. Ils sont à table. Donc Jésus est chez un homme religieux. Et voilà que survient dans cette scène une prostituée. Une prostituée à la paroisse Sainte-Marie. Oh ! Quelle horreur ! Et tout le monde sait que c'est une prostituée. Et voilà que cette femme se jette aux pieds de Jésus. Il se laisse toucher par elle. Et cette femme pleure. Elle pleure tellement qu'elle essuie ses larmes, elle se sert même de ses cheveux. Et cet homme religieux est offusqué. Et il dit, mais si ce Jésus était vraiment un homme de Dieu, il ne se laisserait pas toucher par cette femme. Si cet homme était vraiment un homme venant de Dieu, il ne se laisserait pas toucher par une femme impure comme ça, une femme de mauvaise vie. Oh, il se garde bien de dire quoi que ce soit, mais il pense cela en lui-même. Et Jésus va lui dire, le grand amour qu'elle a manifesté prouve que ses nombreux péchés ont été pardonnés. Mais celui à qui l'on a peu pardonné ne manifeste que peu d'amour. Et là, on revient à notre notion de la dimension du pardon. La dimension du pardon sera à la dimension de notre amour. À la fois l'amour que nous aurons pour les autres, mais également à l'amour que nous aurons reçu du Seigneur. Pour être guéri des blessures du passé, on a besoin de recevoir ce paquet d'amour de Dieu. On a besoin aussi que notre cœur soit rempli de la grâce de Dieu. On a besoin, dans ce baume de cicatrisation, que nous allons accepter de commencer en priant, en bénissant, en souhaitant du bien à celui qui nous a fait du mal, mais de dire également au Seigneur, Seigneur, comble mon cœur, restaure mon cœur, mets ton huile, mets ta grâce, mets ton amour. Et si nous sommes conscients, et si nous sommes bénis de cette présence de Dieu, alors cette présence, cette onction nous aidera à pardonner également à ceux qui nous ont offensés. La dimension du pardon n'est pas illimitée. La dimension du pardon s'arrête là où on lui met une limite. C'est en Romains chapitre 12, verset 18 qu'il est écrit « S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Il y a des situations où nous rentrerons dans une logique et dans une volonté, dans une mentalité de pardon. L'offenseur nous aura fait du mal, où nous aurons blessé quelqu'un, qu'importe. Et puis on prend conscience, on veut faire une démarche de repentance, on va vers la personne, soit parce que, et là si on se positionne dans cette situation, parce que nous aurons eu l'occasion de faire du mal à quelqu'un, et je pense qu'on a tous eu l'occasion sur cette terre déjà de blesser quelqu'un. Et puis on prend conscience, et là on a été maladroit, on était nul, on a été peut-être blessant et peut-être même pire. Alors on décide d'aller voir cette personne. Et voilà que cette personne dit, non, moi ton pardon, j'en ai rien à faire. Est-ce que tu m'as fait ? Je te pardonnerai jamais. C'est la limite du pardon. Le pardon, ça ne peut pas s'imposer. On ne peut pas forcer quelqu'un à accepter un pardon. Ça ne se décrète pas. Ça ne s'impose pas. D'ailleurs, il y a une expression que qui n'est pas bon, en tout cas dans le vocabulaire des enfants, de laisser dire, mais c'est un exemple que nous devons aussi donner, nous. Mais vous savez, il y a cette expression qui dit « je m'excuse ». Mais ça ne veut rien dire « je m'excuse ».
Ça se dit avec le cœur.
Et surtout, on ne s'excuse pas. On présente des excuses. On demande pardon. Mais on ne s'excuse pas. C'est qu'à la fois, je suis le bourreau et à la fois, je suis le juge. Non, on ne s'excuse pas. On présente ses excuses. C'est-à-dire qu'on demande à la personne « je t'ai offensé, je te présente mes excuses ». Tu les acceptes ou tu ne les acceptes pas, mais je fais, c'est-à-dire, si je te fais mal, je m'excuse en même temps, j'en ai rien à faire en fait de ta réaction. Faisons attention. Parce que ça, c'est le principe également de l'ensemble des choses qu'on a vues, c'est qu'à la fois, il faut être capable de reconnaître son péché. Et quelque part, dire je m'excuse, c'est que déjà, on s'absout soi-même, quoi. On se blanchit soi-même. Alors que si j'ai fait du mal à quelqu'un, c'est cette personne-là qui doit me dire « Ok, je te pardonne. » D'ailleurs, si cette personne n'a pas l'occasion ici de le dire, elle est blessée, elle entend l'autre se dire « Bon, je m'excuse. Hein. » Et puis elle part. Et puis on est là dans notre... Non. On présente ses excuses, on demande pardon, mais on ne s'excuse pas. Et à vis-à-vis de Dieu, c'est pareil. C'est le même mécanisme. Seigneur, pardonne-moi. Mais on dit pas, en fait, je me pardonne, hein, Seigneur. Mais c'est exactement la même chose. C'est Dieu qui nous pardonne, mais on ne se pardonne pas nous-mêmes. C'est un peu le problème de l'humanité vis-à-vis de Dieu. Tout le monde veut le pardon de Dieu. Tout le monde. Si on pose la question, si vous voulez le pardon de Dieu, même les païens qui ne croient pas en Dieu, ils veulent aller au paradis. C'est quand même incroyable. Mais ce que l'humanité refuse dans son ensemble, c'est cette démarche d'humilité, de repentance, de reconnaître sa faute et de dire « Seigneur, pardon. » Non. Ils veulent bien être pardonnés, mais ils ne veulent pas demander pardon. C'est terrible. Ils veulent bien la justice, mais ils ne veulent pas le processus de la reconnaissance de la faute pour que la justice puisse se faire et qu'il y ait règlement de la question. Le monde veut le pardon, mais il ne veut pas présenter son pardon. Que nous fassions également attention à bien accepter cette étape. Et le dernier point de la dimension du pardon et de la série que nous allons clôturer. C'est la dimension du pardon après le pardon. On a vu le commencement, la souffrance, l'expression de la couleur, de la colère, les différentes étapes. Mais comment vivre après ? Comment vivre après un pardon ? Tu l'as dit d'ailleurs tout à l'heure, Sophie. Ce qui sera très déterminant, ce sera la sincérité de la démarche du pardon. Si je prends la situation la plus simple, c'est quand ce pardon est sincère, vrai, que la reconnaissance réciproque est... Pardonnez-moi. Quand elle est des deux côtés de tout leur cœur. Et ça se voit, ça se sent. Peut-être que vous avez eu l'occasion d'expérimenter ce genre de situation où vraiment ça a été libérateur, où vraiment le pardon était... Bon, c'était même peut-être des moments forts. Peut-être même que des gens qui étaient connus pour étant des ennemis ou des gens avec qui vous vous connaissiez mal et que vous aviez des appréhensions sont devenus peut-être des très bons amis. Ce genre de situation est plutôt facile à gérer. Parce qu'on sent que le cœur, l'âme, l'esprit, la mentalité changent et les relations changent. Ça se complique toujours un peu plus lorsque, dans la phase de réciprocité, de pardon, on sent que soit les leçons n'ont pas été tirées, soit c'est un pardon, mais partiel. qu'on ne reconnaît qu'une partie de la chose, et ou même de temps en temps, dans certains cas, un pardon de circonstance, quoi. Où l'essentiel, c'est de faire paraître qu'on a fait la chose, mais le cœur n'y est pas. Comment vivre après le pardon ? Pardonner n'est pas synonyme de naïveté. Pardon, c'est pardonner. Et la naïveté, c'est la naïveté. Ce ne sont pas des mots synonymes. Comme on l'a dit, avec la notion de repentance, pardonner sans qu'il y ait repentance, c'est quelque part, c'est ce que j'ai appelé un pardon de complicité. Mais c'est pareil. Si quelqu'un nous demande pardon, et que cette démarche, on l'accepte avec plaisir, cela ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé. On ne peut pas vivre comme si, voilà, reset, tout est effacé, on recommence tout. C'est faux. C'est faux. On a été marqués, l'un et l'autre. Il y a eu des séquelles, il y a eu des marques. Comment vivre après ? Avec conscience. Avec la conscience de ce qu'on a vécu avec la personne. Alors oui, nous sommes dans un processus de pardon. C'est-à-dire qu'on ne va pas garder rigueur dans notre cœur. On ne va pas garder du ressentiment dans notre cœur. On ne va pas cultiver la chose. On ne va pas rappeler la chose dans les disques. Vous vous rappelez ce verset du Proverbe qui dit que celui qui rappelle une faute divise les amis. Non, on est dans un processus de pardon. Et donc ça y est, on ne va pas en revenir dessus. On va tout faire pour retrouver une restauration dans la relation. Mais ça ne veut pas dire qu'on va être des naïfs. Surtout si l'on sent que le pardon, il manque de profondeur, il manque de cœur, il manque d'âme, il manque de sincérité. Pardonner ne signifie pas naïveté. On doit être conscient qu'il peut y avoir une faiblesse, une fragilité, une faille, un défaut dans cette personne ou dans cette situation. Et alors, on va prendre nos précautions. On ne va pas être méfiant, mais on va être prudent. Une grande différence. On ne va pas rester sur un état d'échec, d'agressivité ou de repli sur soi, mais on va user de sagesse, de prévenance. Il y a une histoire comme ça, c'est Paul, lorsqu'il a fait, je crois que son premier voyage missionnaire avec son ami Barnabas, il nous est dit qu'ils sont partis avec un autre compagnon. Et cet autre compagnon s'appelait Marc. Ils partent. Et voilà qu'on apprend dans la lecture du livre des Actes que ce fameux Marc, qui était parti en voyage avec eux, un voyage missionnaire, c'était pas la croisière s'amuse, c'était prêcher l'évangile. Voilà que cet homme décide de les quitter. Ils continuent leur route. Paul, Barnabas reviennent. Il reste quelque temps là où ils sont. Et puis, lorsqu'il projette de faire un deuxième voyage, voilà que Paul et Barnabas préparent leur sac, font l'itinéraire, prévoient les boîtes de conserve. Et Barnabas dit « Oh, et si on prenait Marc avec nous ? Regarde, il est motivé !» Et Paul dit « Non. Non. Attends, mais... Alors là, j'extrapole, hein, c'est pas écrit là, c'est ce que je veux dire. J'imagine la conversation entre les deux hommes. Attends, Paul, il est parti, d'accord, il nous a abandonné la première fois, mais là, regarde, maintenant il est motivé, regardez, maintenant il est plus mature, regarde, allez, vas-y, faut lui redonner une deuxième chance. Non, c'est bon, il faut qu'il fasse ses preuves. Attends, on est déjà parti une première fois, il nous abandonne, comment on a fait nous après là ? Il nous a laissé une galère quand même, c'est bon. Qu'il continue. Moi, je sens qu'il n'est pas prêt, le gamin, là. Mais si, allez, Paul. Et bien, la Bible nous dit que la conversation était tellement vive entre ces deux hommes qu'ils ont décidé chacun de faire chemin séparé. Oh. Est-ce que Paul a été un manque de pardon ? Non. Des années après, Paul va dire « Amenez-moi Marc, il m'est utile dans le ministère. » C'est que après une situation de conflit, on ne doit pas être des naïfs. Si on a repéré comme Paul, si je garde cet exemple-là, a repéré que ce Marc-là, il n'était pas fiable. Il n'était pas encore mûr. Ok, je veux bien lui pardonner le fait qu'il nous ait abandonnés, mais je ne vais pas être naïf, je ne vais pas recommencer la même erreur avec la même personne. Mais c'est pas pour ça qu'il lui a mis une étiquette sur sa tête et il dit, c'est Marc, c'est fini. Jamais je lui confierai quelque chose. Non ! Des années après, c'est même Paul qui va dire, j'ai besoin de ce Marc. Il m'est utile dans le ministère. Vivre après le pardon, c'est effectivement savoir user de prudence, pas de méfiance. C'est savoir être sage, non pas craintif, non pas rejeté, mais être conscient que telle ou telle personne qui ont pu nous faire mal, s'il n'y a pas eu une profonde repentance, un profond changement, qu'ils n'ont pas fait preuve et qui ont montré les preuves d'un véritable changement d'attitude, alors soyons sur nos gardes. Soyons sur nos gardes et sachons, comme dit Jésus, être simples comme des colombes, mais prudents comme des serpents. Il n'y a pas opposition, il y a juste complémentarité. Et dans la notion du vivre après le pardon, la dimension du pardon, après le pardon, il y a cette sagesse, cet équilibre, simplicité et prudence, afin que nous ne fassions pas encore mal au fond de notre cœur. Amen.